béni sois-tu, Adonai.
Laisse-tu oublier, Adonai.
Béni sois-tu, Adonai.
Laisse-tu oublier, Adonai.
Que ton nom se soit glorifié.
Your name be worshipped.
Alors reçois, Seigneur, nos offrandes, nos acclamations, notre reconnaissance.
Our acclamation, Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Soyez bénis. Mon Dieu vous bénisse, tu peux saluer.
May my God bless you.
Salue une personne, bénis la personne.
Greet your neighbor, bless your neighbor.
Dis-lui, le Seigneur a une parole pour toi.
Tell him that the Lord is with you.
Dis-lui que tu es au bon endroit.
You are at the right place.
Et que assurément, assurément, Dieu te fera du bien ce soir.
And surely God will do you some good tonight.
Parce que Dieu t'aime.
Because God loves you.
Tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel.
And you have value to God's eyes.
Soyez bénis.
Blessed.
Alléluia.
Alléluia.
Que la paix du Seigneur soit avec vous.
May the peace of the Lord be granted.
Recevez le shalom de Dieu.
Receive the shalom of God.
La paix de Christ.
The peace of Christ.
Alors nous allons continuer ce que nous avons commencé hier.
We continue what we started yesterday.
Et aujourd'hui nous allons parler des choses sérieuses.
And today we are going to talk about serious things.
Nous allons rentrer vraiment dans le cœur de notre séminaire.
Get in the heart of God.
Et je prie véritablement que vous vous disposiez à recevoir la semence de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons dans les Saintes Écritures.
Let us go in the scripture.
Nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther.
In the book of Esther.
Nous sommes en train de partager sur comment découvrir et accomplir sa destinée, sa mission sur la terre en étant chrétien. Alors, dans le livre d'Esther,
in the book of Esther,
dans le chapitre 2,
chapter 2,
verset 5,
verse 5,
la parole de Dieu déclare: il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gueilles, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gueilles gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alléluia. Alors on va sauter parce que nous connaissons cette histoire.
We know that story.
Alors on va aller directement dans le chapitre 4.
We'll go directly in chapter 4.
Verset 10.
Verse 10.
La Bible déclare: Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été interpellé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre vous, les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Et nous allons lire Actes chapitre 7.
We'll read Acts 7.
Verset 20. Je vais lire d'abord les passages et après je vais développer le sujet de cette journée à travers ce que nous allons lire. À cette époque naquit Moïse. Actes chapitre 7, verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Soulignez ça dans vos Bibles, c'est très important. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Que le Seigneur bénisse sa parole. Découvrir et accomplir sa destinée.
To discover and fulfill his destiny.
En Christ.
In Christ.
Hier, nous avons vu
Yesterday we saw
un ensemble de problématiques.
Many problematics.
Lorsque nous parlons d'un tel sujet,
we talk about such a subject,
il est important pour nous de savoir
it is very important for us to
un certain nombre, plutôt d'avoir un certain nombre d'informations.
Or to have many information.
Le cœur du sujet, c'est la mission.
The heart of the topic is mission.
Maintenant, la question que nous nous sommes posée, c'est qui doit accomplir la mission?
Who should fulfill the mission?
Et nous avons vu que le sujet,
and we saw that the topic,
c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu.
Is the man made in the image of God.
Et nous avons défini la mission comme étant une
and
responsabilité.
We define the mission as a responsibility.
Que nous avons reçu
that we receive
pour accomplir une tâche, un travail bien déterminé.
To fulfill a precise task.
Mais cette responsabilité que nous avons reçue pour accomplir ce travail dépend du potentiel qui a été investi en nous.
Depend on the invested potential,
dépend de la capacité que nous avons.
The ability that we
parce
have,
que la responsabilité marche avec la capacité.
Works with the capacity.
Lorsque tu as la capacité,
when you have capacity,
tu peux accomplir un certain nombre de choses.
You can fulfill many things.
Si tu n'as pas la capacité appropriée dans un domaine bien précis, tu ne pourras pas porter le fruit dans ce domaine. Et nous avons vu hier que Dieu s'intéresse aux fruits dans la vie des hommes. Dieu veut voir dans nos vies des fruits, mais pas n'importe quel fruit. C'est pourquoi vous allez voir en parcourant les Écritures combien de fois le Seigneur a imagé l'homme comme étant un arbre qui doit porter des fruits. Ou bien, si ce n'est pas comme un arbre, alors nous sommes des sarments.
We are sarments if it's
mais
not the
dans
truth.
Tout le discours divin, nous voyons que Dieu revient toujours sur une notion très importante,
the
la notion de porter le fruit.
On bearing fruit always.
Il y a une parole des Écritures qui déclare que déjà la cognée c'est-à-dire la hache, est déjà au pied de tout arbre qui ne portera pas du
fruit.
Donc, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a prévues à
l'avance.
Et Jésus a ajouté que je vous ai établi, choisi, afin que vous portiez du fruit. Or, le fruit, c'est le résultat d'un travail. On ne peut pas parler de fruit s'il n'y a pas de travail. Quand nous parlons de travail, nous parlons d'activité. Donc vous comprenez avec moi que Dieu veut que les hommes soient dans l'activité. Dieu veut que les hommes puissent travailler. Et nous avons vu hier que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un chômeur sur la terre en train de paresser là sous le soleil. Non, non, c'est pas comme ça que Dieu. Dieu, en créant l'homme, j'ai dit qu'il lui a donné trois choses importantes à faire. La première des choses qui est liée à sa responsabilité principale, Dieu a dit à l'homme d'administrer la terre, de gouverner la terre, de régner et de dominer sur la terre. Et c'était un travail qui n'était pas rester assis et ne rien faire. Deuxième des choses, Dieu a demandé à l'homme de nommer, de donner un nom à chaque animal sur la terre. Donc l'homme a eu la responsabilité de donner un nom à chaque animal. Et enfin, la troisième chose, la Bible déclare que après avoir créé tout ce qu'il avait à créer, la Bible dit que Dieu va placer un jardin spécial parmi tous les jardins qui existaient sur la terre. Dieu va placer un jardin spécial qu'il va appeler Éden. Et ce jardin spécial qu'il appelle Éden, c'est là que Dieu a décidé, a choisi de faire résider sa gloire. Mais il a dit que l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, il dit, ce jardin qui est le mien, tu vas le cultiver, tu vas l'entretenir, tu vas le garder. Tu as donné une responsabilité à l'homme de garder, d'entretenir ce qui est à lui. Donc déjà dans la pensée de Dieu, il est inconcevable que l'homme soit oisif, que l'homme ne soit pas productif. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un producteur. Dieu lui-même est un créateur. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu, lorsqu'il demande à l'homme de produire, c'est parce qu'il sait qu'il a investi quelque chose dans l'homme. Parce qu'il ne peut pas dire porter du fruit, alors que Dieu lui-même, il sait que pour porter le fruit, il faut préparer la semence. Sans semence, il n'y a pas de fruit. Or, la semence, c'est ça le potentiel. La semence, c'est ça la capacité. Lorsque Dieu dit porter du fruit, parce qu'il sait qu'en chacun de nous, il a investi quelque chose. C'est la chose que lui, il a mis en toi qui fera que tu portes du fruit. Dieu ne peut pas demander des choses où, au préalable, il sait que tu n'as pas la capacité. Lorsque Dieu dit porte le fruit, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en toi la capacité de porter le fruit. C'est pourquoi nous sommes dans ce séminaire pour essayer de comprendre, découvrir et accomplir notre mission en Christ comme Dieu l'a toujours voulu. Et nous avons parlé du potentiel hier comme étant l'investissement de Dieu en nous. La partie de Dieu qui est dans l'homme, c'est cette force, cette puissance que Dieu a investi en nous, mais que l'homme n'a pas encore réussi à exploiter au maximum. C'est tout ce que nous avons la capacité de faire. C'est tout ce que nous avons la capacité de réaliser. C'est tout ce que nous avons la capacité d'atteindre, de produire, mais que nous n'avons pas encore produit, que nous n'avons pas encore fait, que nous n'avons pas encore atteint. Mais pourtant, cette capacité est en nous, mais elle n'est pas révélée. Mais Dieu sait qu'elle est là et elle existe. Nous avons reçu la grâce de Dieu dans nos vies.
We have received God's grace in
le potentiel divin est en
the
nous.
Divine potential,
c'est-à-dire la capacité de manifester
to manifest
la divinité de Dieu sur la terre.
The divinity of God
les œuvres de Dieu sur la terre.
The works of God.
Et donc, chacun de nous doit comprendre.
So we should understand.
La Bible dit que Dieu a investi en nous
God has invested
son esprit.
His spirit.
Or, dans le livre du prophète Esaïe,
in the book of Isaiah,
chapitre 11, verset 2,
11, 2,
la Bible parlant de l'Esprit de Dieu,
the Bible talks about the Spirit
la Bible dit
God.
Que l'Esprit du Seigneur,
the God Spirit,
que c'est un esprit de force,
is a spirit of force,
c'est un esprit de conseil,
a spirit of advice,
c'est un esprit d'intelligence,
a spirit of intelligence,
un esprit de connaissance,
a spirit of knowledge,
un esprit de sagesse,
a spirit of wisdom,
un esprit de crainte de l'Éternel.
A spirit of fear.
À travers ces six éléments, nous voyons les différents potentiels, les différentes capacités que Dieu a investi dans l'homme. Qui peuvent se déployer dans leur maximum, que ce soit dans le domaine de la force, de la puissance, que ce soit dans le domaine du rationnel, de la réflexion, de l'intelligence, Dieu a investi cela en nous. Donc l'homme a en lui cette capacité tant de dépasser des limites dans son corps physique, mais également de se surpasser, se déplacer au niveau de son intellect, de son intellectuel, de son esprit. Et cela, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette capacité. Voilà pourquoi lorsque dans le monde aujourd'hui, nous avons des personnes qu'on appelle les surdoués. Mais en réalité, ces personnes ne sont pas spéciales pour Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles ont réussi à exploiter et développer ce que Dieu a placé dans l'esprit de l'homme par rapport à d'autres qui n'ont pas réussi à exploiter leur intellect. La science dit ceci. Au jour d'aujourd'hui, l'être humain n'a réussi à exploiter que 10% de la capacité de son intellect. Vous vous rendez compte? Avec le monde qui nous entoure, il a été démontré que 10% seulement de la capacité intellectuelle de l'homme est utilisée. Mais les autres pourcents sont partis où? Ceux qu'on appelle les surdoués, en réalité, ce sont les personnes qui ont réussi à exploiter au-delà des 10%. Pour Dieu, ils ne sont pas spéciales. Pour Dieu, c'est ça l'homme. Un être spécial, un être à part entière. Donc c'est pour dire qu'à travers ces personnes-là, qui ne sont qu'un échantillon, nous pouvons comprendre que dans l'être humain, il y a un grand potentiel, tant dans la création artistique, tant dans la force même physique, ce que Dieu a mis. Il y a des personnes dans certaines situations qui ont eu la révélation qu'elles avaient une certaine capacité d'accomplir des choses sans le savoir. Il y a certaines situations dans nos vies, des pressions dans nos vies qui nous ont amenés à découvrir que finalement on pouvait faire aussi ça. C'est pourquoi on dit que le potentiel, ce sont les capacités qui dorment en nous mais qui ne sont pas encore révélées. Ce sont ces forces, ces puissances qui sommeillent en nous, mais qu'on n'a pas encore exploré. Et nous ne pourrons pas faire les œuvres de Dieu sans les moyens que Dieu met à notre disposition. Le potentiel. Maintenant, aujourd'hui, après avoir cerné tout ça, nous voulons maintenant rentrer dans la découverte. Mais je disais encore hier, nous ne pouvons pas nous lancer dans la découverte si au préalable on n'est pas sûr et certain que la chose qu'on va poursuivre là existe et elle est réelle. Parce que ça ne sert à rien de s'investir dans une quête, dans une recherche d'une chose qui n'existe pas, d'une chose qui n'est pas réelle. Donc si nous devons chercher à découvrir, c'est qu'au préalable il y a des choses dont nous sommes conscientes qui ont été enfouies, qui ont été cachées. Parce qu'on ne peut pas découvrir ce qui n'est pas caché. La découverte, c'est pour les choses qui existent, mais qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais ces choses existent et nous voulons les voir dans leur manifestation. Donc la première des choses, tu dois comprendre que effectivement il y a des choses que Dieu a enfouies en toi. Tu dois être d'abord convaincu de cela, que Dieu a mis quelque chose de lui en toi, et ce n'est pas possible que la chose que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu meurs comme ça sur la terre sans avoir pu marquer ton temps, ton époque et ta génération. C'est pas possible. Assurément, il y a des choses que tu dois accomplir sur la terre. Parce que Dieu ne peut pas avoir permis que ta mère t'ait porté pendant 9 ou 8 mois, que tu sois manifesté sur cette planète de terre pour venir accompagner les autres, pour décorer la planète terre. C'est pas possible. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses avec un but. Alors, quelle est la raison d'être? C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre finalement quelle est notre raison d'être. Pourquoi nous sommes là? Tu t'es jamais posé la question? Pourquoi tu es là? Puisqu'il y a des personnes qui sont arrivées à ce titre. Je ne comprends même pas pourquoi je suis venu sur la terre. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Ma vie n'a pas de sens. Je ne comprends pas ma vie. Quand tu arrives à le dire, c'est parce qu'au plus profond de toi, il y a comme un combat, il y a une certaine lutte, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise. Parce que tu te dis que quand tu dis que ma vie n'a pas de sens, c'est que quelque part aussi tu comprends, même si toi tu ne le vis pas, mais tu comprends que normalement la vie de quelqu'un doit avoir un sens. Parce que tu ne peux pas conclure que ta vie n'a pas de sens si tu n'es pas convaincu aussi que la vie doit avoir un sens et que toi tu n'as pas atteint un certain niveau. Voilà pourquoi tu te dis, mais par rapport à mon niveau, donc la vie n'a pas de sens. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre que votre vie, elle a un sens. Mais ce n'est pas vous qui déterminez le sens de votre vie, mais c'est moi Dieu qui détermine le sens de votre vie. Donc vous devez partir à la recherche du plan de Dieu vous concernant. Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel est le rêve de Dieu pour toi? Quelle est la vision de Dieu pour toi? C'est ça le cœur de notre séminaire. Et pour comprendre ce qu'on va partager maintenant, nous allons nous appuyer sur les 5 doigts de la main. Dans le monde, on utilise la main pour prédire l'avenir. Vous allez voir des personnes, ils vont voir vos mains, elles vont lire les lignes, et puis à travers la main, il y a des personnes sur cette terre qui déterminent les destinées des autres. Ils disent quelquefois des bonnes choses, mais ils mentent aussi. Ils utilisent la main pour déterminer vos destinées. Et moi, à travers ce séminaire, j'utilise également la main, les 5 doigts de la main. Je vais utiliser également les 5 livres de la loi pour t'aider à comprendre comment tu pourras découvrir ta destinée, ta raison d'être, les différentes pistes qui vont te permettre de te positionner sur la terre. Alléluia. Donc, premièrement, comment tu peux arriver à découvrir ta destinée ou bien ta mission? Et je parlais des 5 livres de la loi, mais également des 5 ministères. Donc, nous allons voir, ça va vous aider, les 5 doigts de la main, les 5 livres de la loi, et les 5 ministères de la Bible. Comme ça, à travers ces éléments, vous souviendrez toujours sur comment comprendre, discerner ce à quoi Dieu vous destine. Le pouce. Première piste pour comprendre ta mission. Le pouce. Le pouce, c'est l'équivalent du ministère apostolique.
of the ministry of apostleship.
C'est l'équivalent du livre de la Genèse.
To the book of Genesis.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière le pouce?
What is behind the first finger?
Qu'est-ce qu'il y a derrière le ministère apostolique?
What is behind the apostleship ministry?
Qu'est-ce qu'il y a derrière le livre de la Genèse?
What is behind the book of Genesis?
Le pouce,
the first finger,
lié au ministère apostolique,
bind to the ministry of apostle,
c'est le fardeau.
Is the burden.
Même le P de pouce, ça nous parle du poids, le poids.
Talk about weight.
Le fardeau.
Burden.
Celui qui porte.
The one who bears.
La charge.
Who bears the charge.
Celui qui porte le fardeau.
The one who bears the burden.
Le fondement.
The foundation.
Il y a des choses.
There are things.
Dans ta vie.
In your life.
Qui deviennent des fardeaux.
Who become burdens.
C'est-à-dire que tu sens dans ta vie qu'il y a des fardeaux.
You feel in your life that they are burdens.
Pas que tu as inventé et que tu as voulu porter.
You have not invented it.
Il va arriver à un moment donné de ta vie.
At a certain time in your life,
tu vas sentir
you will feel
un fardeau.
Something. You will feel a burden.
Un poids.
You will feel a weight.
Dans ta vie.
In your life.
Quelque chose qui va te mettre mal à l'aise.
Something that will disturb you.
Dans le poids. Et dans
burden,
ce fardeau,
weight,
j'ajoute aussi toutes les blessures
I will hide all the wounds
que tu as eues dans le passé qui t'ont blessé
past, something that hurts you
et qui t'ont meurtri à l'intérieur.
That hurts you and wound you.
Et c'est devenu un fardeau.
Because
dérangé.
The burden, you are disturbed.
La Bible nous rapporte que
the Bible talks us about
les murailles de Jérusalem étaient brûlées.
The walls of Jerusalem.
Les portes étaient détruites.
The gates were destroyed.
Il y avait beaucoup de Juifs.
There were many Jews.
On est venu donner la nouvelle à Néhémie.
We came and gave the news to Nehemiah.
On parlera beaucoup de Néhémie demain.
We are going to talk about Nehemiah tomorrow.
Mais là, j'aimerais dire qu'on vient donner la nouvelle à Néhémie.
We come and give the news to Nehemiah.
Et à l'instant,
and at the time,
lorsque Néhémie reçoit l'information,
when Nehemiah received the news,
cette information,
this news,
touche le cœur de Néhémie.
Touched the heart of Nehemiah.
Pourtant, il aurait pu faire comme tout le monde.
Although,
bon,
mais
c'est
like
une information.
Kind of
bon, Jérusalem est
détruite.
Mais Néhémie reçoit l'information
the news
que ça va pas à Jérusalem.
It is
à l'instant, il est marqué.
Time,
il est touché.
Touched,
il est brisé intérieurement.
Il
porte le fardeau. Néhémie va prier Dieu. Personne n'avait obligé Néhémie à le faire.
No one forced Nehemiah to do.
Il va pleurer.
He will cry.
C'est
he will
ça
weep.
Le fardeau. Tu
that
reçois quelque chose qui
you
te brise.
That
au moment où tout le monde est indifférent par rapport à cette chose, mais toi, la chose en question te tourmente. C'est ça le fardeau. Tu es tourmenté par la chose. Tu es mal à l'aise à cause de cette chose. Néhémie était mal à l'aise. Il a pleuré. Même dans le service avec le roi, il ne peut pas cacher sa tristesse. Il était abattu. Parce que le cœur était touché. Il a porté la chose. Il a porté. Et ça a révélé la mission de Néhémie. De tous les Juifs, tu as été le seul qui a porté le fardeau de Jérusalem. Dieu l'a envoyé en mission. Parce que c'est toi qui as eu le fardeau, tu sauras mieux apprécier le travail. Tu auras la passion ce qu'il faut. Tu auras l'endurance ce qu'il faut. Tu auras la passion qu'il faut. Tu auras l'amour qu'il faut. Parce que tu as eu le fardeau. Je t'envoie, tu es l'homme qu'il faut. Et Néhémie est parti. Personne ne pouvait changer Néhémie par rapport à la mission parce qu'il a eu le fardeau. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Le poids. Et Dieu a dit, tu es l'homme qu'il faut. Donc, les fardeaux que tu as sont des indicateurs des choses que tu dois apporter des solutions. Parce que tout le monde peut voir la même situation que toi, mais tout le monde n'a pas le même cœur pour la situation. Si toi ton cœur est en train de battre pour cette chose, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Je veux dire que tu dois apporter des solutions là. Tu te promènes dans la rue. Il y a les enfants de la rue. Il y en a qui se moquent d'eux, il y en a qui les critiquent. Mais toi tu passes, tu vois ces enfants de la rue, tu sens que dans le cœur ça va pas. Tu vois les prostituées, au moment où tout le monde est indifférent, mais toi tu sens intérieurement que ça va pas. Une compassion remplit ton cœur, une grande compassion remplit ton cœur pour ça. Tu vois les vieillards, tu es tourmenté. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Tu te parles à toi-même. Au moment où les gens sont indifférents, c'est toi quelque part, ça fait tilt. C'est-à-dire que Dieu est en train de t'interpeller. C'est pourquoi il y a des choses dans la vie, tout le monde ne peut pas avoir le fardeau. Même quand il y a des mouvements dans les églises, on dit, bon, on va faire le jeûne 40 jours, 20 jours, une semaine. Dans la multitude, tout le monde n'aura pas le fardeau. C'est pas possible. Il y a des gens qui peuvent faire les choses avec négligence. Il y en a qui vont le faire parce qu'on a dit qu'il faut le faire. Mais il y a d'autres personnes qui le feront avec le cœur, avec l'esprit de la chose. C'est une affaire de fardeau. Parce que lorsqu'il y a le fardeau, tu pourras bien faire le travail. Parce qu'un travail, c'est là où nous parlons de la passion. Lorsqu'il n'y a pas de passion, on ne peut pas être productif dans un travail. La passion amène quelqu'un à porter le fruit. Parce que tu es passionné par la chose. Tu brûles pour cette chose. Tu vas porter les fruits. Parce que tu as en toi un désir du bien faire. Tu as en toi un désir de réalisation. Tu as en toi un désir d'accomplissement de la chose. Il faut que ça se fasse. Quel que soit le prix que cela va me coûter, je vais m'investir. Le fardeau. Retenez la lettre P de pouce, c'est le poids, donc le fardeau. Celui qui porte la charge. C'est le commencement de tout. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de mission si au départ il n'y a pas de fardeau. Ministère apostolique, celui qui pose les fondements, c'est lui qui porte d'abord. La Genèse, c'est le commencement. Toute la Bible n'a de sens que par la compréhension de la Genèse. Si vous ne comprenez pas la Genèse, si vous enlevez la Genèse, vous ne comprendrez pas le reste de la Bible. C'est le fondement. Après le pouce, nous avons l'index. L'index, c'est le ministère du prophète. En dehors du ministère du prophète, en termes de livres, c'est le livre de Deutéronome. Et je vais expliquer cela. On dit index, indexé, index. Interpeller. Le prophète, c'est celui qui interpelle la conscience. Le prophète, c'est celui qui interpelle les consciences. Le prophète, c'est celui qui rappelle. Et celui qui rappelle. Et dans le livre de Deutéronome, quand vous lisez bien Deutéronome, ce n'est que le rappel de l'histoire. Dans Deutéronome, on ne fait que rappeler aux enfants d'Israël leur histoire. Interpeller de nouveau leur conscience. Interpeller de nouveau leur esprit pour dire, mais vous étiez quelque part, vous étiez en Égypte. Regardez ce que Dieu il a fait, il vous a conduit là. Deutéronome interpelle, Deutéronome rappelle. Donc, il y a des choses qui interpelleront ta conscience. Je ne parle pas du fardeau ici, je parle des choses qui vont t'interpeller.
things that will shock us to you.
Qui vont comme si te réveiller d'un sommeil.
To revive you.
Peut-être que tu avais oublié, il y a des choses qui vont te réveiller.
You have forgotten, but something will revive.
Nous avons lu l'histoire d'Esther.
The story of Esther.
La désobéissance de Vasti
a
fait en sorte que le trône était libre dans la place de la reine.
Because of it, the throne was empty.
Il fallait une reine pour être à côté du roi.
And the queen was necessary to be.
Et le roi va demander à ce que toutes les belles filles du royaume.
And he will ask to all the beautiful
qu'il y ait un casting.
He will ask a casting.
Choisir la reine.
Just to choose the queen.
Et Esther.
And Esther
s'est positionnée à travers ce qu'elle incarnait comme beauté, comme potentiel extérieur physique.
Was a potential, was a beautiful woman.
Et par la grâce de Dieu,
and by God's grace,
Esther est devenue reine.
Became queen.
Et les années vont passer.
And many years will pass.
Et un monsieur
and a man
qui voudra exterminer le peuple d'Esther qui était d'origine juive.
The people of Esther, the Jews.
Un certain Haman.
Haman.
Alors, l'oncle d'Esther qu'on appelle Mardoché,
so the uncle of Esther, Mardoché,
ayant reçu l'information,
receiving the news,
que Haman a des projets pour détruire le peuple juif,
the Jewish people.
Alors Mardoché également va être touché, il reçoit le fardeau. Il est dérangé par la nouvelle.
He's troubled by the news.
Mardoché est interpellé.
Mardoché is interpellated.
Alors Mardoché va voir Esther.
Go and meet Esther.
Et donne l'information à Esther.
And give the news to Esther.
Comme quoi ce monsieur Haman,
this Haman
a le projet de détruire le peuple.
He want to destroy the people.
Au départ, Esther ne réalise pas.
At the beginning, Esther will not realize.
Esther, comme on l'a lu tout à l'heure, donne
as
des raisons.
She will give reasons.
Tu sais, la oh, loi
you know,
dit que tu ne peux pas te présenter au roi si celui qui t'appelle, ça fait 30 jours, il ne m'a pas appelé. Celui qui va aller sans être appelé par le roi mourra. Elle donne des raisons humaines. C'était logique d'après les lois. Mais Mardoché était un homme qui était comme un aigle. C'était un visionnaire. C'est quelqu'un qui savait faire la lecture prophétique des événements. Mardoché dit non. Mais il rappelle à Esther. Mais toi, tu es arrivé sous le trône là. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tu es la reine. Il dit, mais peut-être que c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Donc Esther, à un moment donné, s'est retrouvée dans le confort du trône. Et elle a oublié que lorsque Dieu a orchestré les événements, lorsque Dieu a permis la désobéissance de Vasti, dans le plan de Dieu, Dieu voyait Esther qui devait être assise sur le trône. Mais bien plus que cela, Dieu voyait Esther comme un instrument de délivrance pour le peuple.
Donc,
quand Dieu a orchestré les événements, c'est parce qu'il voulait un instrument qui va sauver. Esther était l'instrument de Dieu. Mais elle ne savait pas qu'elle était l'instrument de Dieu. Elle ne savait pas que dans le palais du roi, elle avait une mission. Maintenant, pour découvrir sa mission, il fallait un Mardoché. Il fallait quelqu'un qui va réveiller la conscience d'Esther. Interpeller Esther. Alors, lorsque Mardoché a interpellé la conscience d'Esther, c'est comme si elle s'est réveillée. Et comme elle s'est réveillée, elle dit, bon, maintenant, elle est jeûnée. Maintenant, elle a compris son rôle. Esther aurait pu dire à son oncle, ce sont des histoires. Moi, je suis la reine, donc moi, ces histoires-là, laisse-moi tranquille. Elle aurait pu même se fâcher. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que quand Mardoché a dit, mais peut-être c'est pour des temps-ci là, que tu es parvenu à la royauté, c'est comme s'il y a un déclic. Et aussitôt, Esther se range. Elle dit, c'est ça. Donc, jeûner, je vais jeûner. Et après, j'irai rencontrer le roi. Voilà comment un Mardoché est venu interpeller l'esprit, la conscience d'Esther pour la révéler sa mission. Tu es au palais pour être l'instrument de délivrance du peuple.
L'index.
The second finger.
Interpellation.
The
one, le I d'index.
He will shout out.
C'est le I d'interpellation.
To shout out.
Il y a des choses qui vont t'interpeller.
There are things which will shout
qui vont comme te réveiller.
Which will revive.
Dieu va dire c'est ça.
God will say,
tu avais oublié. Mais je te rappelle. Alléluia. Après l'index,
after the second finger,
nous avons le majeur.
We have the third finger.
Le majeur,
the third finger,
c'est le ministère de l'évangéliste.
The ministry of evangelist,
celui qui sort.
The one,
celui qui va vers les perdus.
Out.
Et nous avons le livre de la délivrance, Exode. Parce que Exode est le livre de la sortie. Le livre de la sortie. On sort d'Égypte. L'évangéliste fait sortir les gens d'Égypte pour les faire entrer dans le salut de Dieu. Et le ministère de l'évangéliste, bien l'Exode, c'est là où il y a la manifestation de puissance, la manifestation des dents. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, regardez comment Dieu s'est révélé. Dieu s'est manifesté dans la puissance pour dire que je suis l'Éternel. Et ici, c'est ce que nous appelons la manifestation des dents spirituels et des talents que nous avons. C'est les dons spirituels et les talents que nous avons. Les dons spirituels que vous avez qui sont manifestés sont des indicateurs de la mission que vous devez accomplir. Les talents que Dieu vous a donnés sont des indicateurs du milieu, de l'environnement dans lequel vous devez exprimer la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qui est visible, c'est ce qui est extérieur. C'est ce qui est accessible à tout le monde. Les gens peuvent voir et apprécier cela. Mais ça révèle la mission. Ça révèle la mission à travers les dons. Et à travers les dons que vous avez, cela va vous permettre de comprendre que le don que j'ai, c'est pour répondre à des besoins. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour répondre à des besoins, donc à un travail bien donné. Dieu ne peut pas investir des dons à quelqu'un comme on l'a vu hier pour elle-même. Les dons que Dieu vous donne, c'est pour servir les autres. C'est pour les autres. Ce qui donne un sens au don, c'est lorsqu'il est employé pour les autres. Le talent, c'est la même chose. Tu peux avoir le talent, mais si ton talent n'est pas confronté à l'autre, aux autres, il ne sert à rien. Il faut que tu sois dans un environnement où il y a les autres, où ton talent bénira. Alors les gens diront effectivement, c'est une personne exceptionnelle. Mais tu peux avoir le meilleur talent, mais si tu es seul à la maison, tu vas mourir à la maison avec ton talent. Personne ne saura ce que tu étais parce que tu es resté dans ton coin seul. Donc, ce que nous avons, que ce soit les talents, pour que tu puisses t'épanouir pleinement, tu dois être confronté aux autres. Joseph était investi de dons spirituels et de talents naturels. C'est ce que nous appelons le potentiel. En Joseph, il y avait des talents naturels. Il avait le talent d'économiste, administrateur, intendance. Il a démontré cela parce qu'il était dans un cadre dans la maison de Potiphar. Il a fait l'administration, il a fait l'intendance. Son don s'est exprimé, il s'est distingué. Mais s'il n'était pas confronté à la maison de Potiphar, comment on allait savoir que Joseph avait ce talent? Comment on allait apprécier le talent de Joseph s'il n'était pas confronté à des personnes qui étaient dans le besoin? Joseph avait les dons spirituels. Mais s'il n'y avait pas eu des personnes dans la prison qui avaient des songes qu'ils ne comprenaient pas, même le pharaon, comment Joseph, dans son don, allait-il être utile?
Joseph s'est rendu utile lorsqu'il a été confronté à un besoin. Et le besoin a réveillé le don qu'il avait. C'est comme si le besoin parle au don pour dire, mais ce que tu as là, c'est pour régler mon problème. Joseph était la solution au problème spirituel de Pharaon. Joseph incarnait la solution au problème d'administration et d'intendance de Potiphar, dans le potentiel qu'il avait aussi. Donc, la manifestation de nos dons, la manifestation de nos talents, révèle là où Dieu veut que tu puisses te déployer. Parce qu'un don donne le sens. Si tu as un don de guérison, c'est pour guérir. Tu ne peux pas avoir un don de guérison et le garder pour toi-même. Si tu as un don de guérison, ça veut donc dire que tu as appelé à l'exercer pour guérir les gens. C'est pourquoi je dis que le don détermine la mission. L'expression de ton don détermine l'environnement dans lequel tu dois opérer. Si ton don s'exprime dans la délivrance, c'est là-bas que tu dois te déployer et c'est là-bas que tu attends les résultats. Mais si tu ne comprends même pas le don que tu as, tu ne comprends même pas le talent que tu as, tu ne pourras pas porter le fruit que Dieu attend de toi. C'est là qu'il va dire que mais je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. La Bible dit que sa divine puissance nous a tout donné. En ce qui concerne la vie et la piété, nous avons tout reçu de Dieu. Maintenant, c'est à toi de comprendre les choses qui se manifestent dans ta vie. C'est pourquoi on parle de la lettre M. La lettre M, c'est les choses que tu constates toi-même d'abord. Tu constates des choses dans ta vie, des manifestations. Que ce soit dans les dons spirituels, que ce soit dans les talents naturels. Mais tu sens que quand tu fais ça, tu te sens bien, puis les gens sont contents, les gens sont bénis. Tu sens que spirituellement, il y a ça. Tu vois des choses, tu accomplis des choses. Tu le sens, tu sens cette manifestation. Ça veut dire que Dieu t'appelle à opérer là-bas. Alléluia. Le M de majeur. Après, nous avons, comment on appelle ce doigt? Annulaire. Annulaire, c'est le ministère pastoral. Annulaire, c'est le livre de Lévitique. Pourquoi je suis en train de parler de A? La lettre A de annulaire, c'est la lettre de l'alliance. La lettre A de annulaire, c'est la lettre de attraction. Le pasteur, c'est celui-là qui s'occupe des brebis, n'est-ce pas? C'est celui-là qui est en interaction avec le peuple de Dieu. C'est celui-là qui est le plus souvent avec le peuple parce qu'il doit être au milieu du peuple. Ici, nous parlons de la loi de l'attraction qui est liée à l'alliance. Parce que l'alliance que vous voyez, c'est sur le doigt de l'annulaire. Or, lorsque nous parlons d'alliance, nous parlons de l'intimité. Lorsque nous parlons d'intimité, nous parlons de l'adoration. Il y a des rencontres. Ou bien, je dirais, il y a des personnes que tu es souvent en contact avec ces personnes. Il y a un environnement, il y a un milieu où tu es le plus souvent. C'est comme si tu es attiré dans cet environnement, attiré avec ce type, cette catégorie de personnes. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. tu ne peux attirer que des personnes qui correspondent à ce que tu es. Tu vas rencontrer des personnes qui correspondent à ce que toi tu es. Donc, dans la loi de l'attraction, tu vas souvent rencontrer. Et si tu fais le constat, tu remarques, par exemple, la personne, elle remarque souvent elle est face, souvent elle est confrontée à une catégorie bien précise de personnes. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, dans la majeure partie des cas, elle est confrontée à des personnes qui ont des problèmes, par exemple, de dépression. Et si, à force de rencontrer, c'est-à-dire que dans ta vie, quand tu évalues les choses, tu rencontres plus souvent des personnes qui ont des dépressions. Ou bien tu rencontres plus souvent des personnes qui, dans leur vie, ont souffert d'un manque d'amour, qui ont été rejetées dans leur enfance. C'est-à-dire que les personnes que tu rencontres souvent, c'est des personnes qui ont eu des blessures dans leur passé, dans leur vie. C'est souvent ce genre de personnes-là que tu rencontres. Et ça veut dire que ce genre de personnes-là, comme tu les rencontres souvent, ça veut dire que, assure-moi que Dieu veut que toi, tu puisses apporter des réponses à ces personnes. Parce que tu ne peux pas que rencontrer tout le temps, rencontrer toujours la même catégorie de personnes. À force de rencontrer la même catégorie de personnes, c'est comme si Dieu entendait dire que voilà le chemin où je t'ai placé. C'est là que je veux que tu puisses porter le fruit. Quand j'ai compris la mission que j'avais reçue de Dieu, ici au Maroc, j'ai rencontré dans ce pays, et ça avait commencé pendant la transition où je devais quitter le pays pour le Maroc. Alors, il y a une série de personnes que le Seigneur me fit souvent rencontrer. Le Seigneur m'a mis en face de deux catégories principales de personnes. Or, je ne savais pas que dans le plan de Dieu, c'était le travail que je devais faire. J'y étais souvent confronté depuis le pays, et ça s'est poursuivi ici au Maroc, où j'ai rencontré des rétrogrades. C'est-à-dire que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui avaient connu le Seigneur, mais qui étaient rétrogrades. J'ai beaucoup rencontré des religieux. Et je ne comprenais pas au départ pourquoi cette catégorie de personnes que je rencontrais. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé pour dire que tu dois apporter la restauration, rétablir la foi. Tu dois redonner de l'espoir. Tu dois redonner de l'espoir à ces personnes. Peut-être quand on dit que Christ en vous l'espérance, la gloire, ce n'est pas une parole comme ça qui est venue. Quand le Seigneur m'a confirmé cette parole, c'est pour tous ces rétrogrades, tous ces religieux. Et voilà que pendant des années, parce que ça a fait quand même plus de 10 ans que j'étais dans ce pays-là, pendant des années, la plupart des personnes qui venaient à l'église dans le rassemblement, c'était des religieux, c'était des rétrogrades. Je comprends même pourquoi Dieu tu attires vers ma personne. Des rétrogrades, des religieux. Pourquoi c'est souvent ce genre de catégorie de personnes qui viennent vers moi? C'est ce que je comprends, que c'était ça ma responsabilité. C'était de leur apporter la parole pour leur restauration. Or, la restauration n'a de sens que lorsque une chose a existé et qui a été endommagée, qui a été détruite. Quand on restaure, une chose qui d'abord fonctionnait, mais qui après des défaillances a eu des problèmes. Et tu dis maintenant, vas-y, relève la vie de ces hommes. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Et j'ai compris ma mission. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Maroc. Des religieux. Des rétrogrades. Et Dieu les attire vers mon ministère pour que dans leur vie Dieu apporte un relèvement. Et j'ai vécu ça pendant toutes les années que j'ai passé dans ce pays. La loi de l'attraction. L'interaction se fait avec des personnes que Dieu t'a destiné, ce qu'ils ont, soit toi-même tu es passé par là pour mieux comprendre ces personnes. J'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui ont souffert du manque d'amour, les problèmes de manque d'amour, les problèmes de rejet par les parents, la famille, l'enfance. Beaucoup de gens. Parce que moi-même, j'ai vécu ça en France. J'ai passé une enfance en France. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mon école primaire et mon collège en France. Et durant mes années primaire et collège en France, j'ai été vraiment, j'ai subi des choses. J'ai souffert du manque d'amour. J'ai souffert de rejet par la personne qui était censée m'éduquer. Et ça m'a détruit intérieurement. Et Dieu permet que je rencontre beaucoup de personnes également qui ont eu dans leur vie, dans leur passé, des blessures internes, des rejets, des mépris, manque d'amour, etc. Parce que Dieu savait que toi, tu es passé par là, tu pourras mieux comprendre ces personnes et tu pourras mieux apporter des solutions. Donc, il y a des choses dans ta vie, des gens qui vont venir souvent te rencontrer, mais tu ne comprends pas, mais pourquoi c'est toujours la même catégorie de personnes avec les mêmes problèmes. Et quand tu vas t'examiner toi-même, tu vas te rendre que soit toi-même aussi tu es passé par là, et toi-même aussi tu as vécu cela, mais par la grâce de Dieu, tu es sorti de la situation. C'est pourquoi là je parle des rencontres que tu fais. Les différentes rencontres que tu fais peuvent déterminer sérieusement ce que tu dois faire. C'est pourquoi est le discernement, les gens qui viennent souvent te voir, les gens que tu es souvent en contact avec, discerne. Pourquoi c'est souvent les mêmes problèmes, les mêmes besoins qu'on vient te soumettre? Si c'est les mêmes besoins qu'on vient souvent te soumettre, c'est qu'en toi tu portes la solution, la réponse à ces besoins. Parce que ça ne peut pas se répéter comme ça pendant des années de ta vie. C'est qu'en toi, tu es la solution de ces personnes. Donc maintenant, ouvre bien tes yeux et sois attentif. Et enfin, c'est pourquoi dans le A de annulaire, retenez alliance, retenez attraction. Retenez la communion, les gens avec qui tu seras en communion. C'est parce que dans le livre de Lévitique, c'est le livre où on nous parle du culte. C'est le livre où on nous parle de l'adoration. C'est le livre où on nous parle de la communion du peuple avec Dieu. Et la lettre du petit doigt, là, c'est aussi un A, n'est-ce pas? Comment on l'appelle? Auriculaire. Auriculaire, c'est le ministère de docteur. Et c'est le livre de nombres. C'est le livre de nombres. Pourquoi? Parce que l'auriculaire, le petit doigt qui permet de mieux nettoyer les oreilles. Or, le docteur a besoin de tes oreilles pour que l'enseignement y passe. Pourquoi? Parce que nous écoutons par les oreilles. C'est par les oreilles qu'on écoute l'enseignement. S'il n'y a pas des oreilles, le ministère du docteur, tu vas rien comprendre parce qu'il a besoin de tes oreilles. Le docteur, il explique la doctrine. Il explique la parole de Dieu. Mais pour que tu aies l'impact de son ministère, il faut que tu apprennes à écouter. Et le doigt qui permet à ce que tu puisses bien écouter, c'est l'auriculaire. Ici, nous parlons du témoignage des autres. Et là, nous revenons encore avec Mardoché et Esther. Mardoché
Mordecai,
en expliquant à Esther, prophétiquement les événements, il a permis à ce que Esther, en écoutant ce que Mardoché lui a dit, de comprendre sa mission. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie que peut-être toi-même tu ne comprends pas, mais Dieu va utiliser des personnes pour te les expliquer, pour te les faire comprendre. C'est ce que j'appelle le témoignage des autres. Le témoignage des autres. Ce que les autres voient en toi que toi peut-être que tu ne vois pas. Ce que les autres voient en toi peut-être que toi tu n'as pas réalisé. C'est important aussi le témoignage des autres. Et le témoignage de Mardoché est tombé pile. Mardoché a eu la révélation que Esther, toi tu es là, c'est pour une mission. Tu n'es pas là seulement pour que notre famille soit bien. Tu es là pour une mission. Et en expliquant prophétiquement les choses, Esther a écouté. Et après avoir écouté, elle a compris et puis elle a adopté l'attitude qu'il fallait. C'est pourquoi quand il y a des personnes qui viennent te parler de ce que Dieu leur a révélé te concernant, ne bouge pas tes oreilles. Écoute, c'est vrai qu'il faut discerner. Je ne dis pas que tu écoutes tout et fais comme on te demande de le faire. Mais apprends à écouter. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour révéler ta mission et ta destinée. Or nous quelquefois on se dit que je vais aller en retraite, je vais aller dans le même moment. Là il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu me parle, il faut que j'entende la voix, il faut que la voix, le ciel, la voix de Dieu. Qui t'a dit de Dieu pour te parler, pour te révéler, il est obligé de passer par là. Dieu peut même utiliser un païen. Même un païen, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Mais comme nous sommes devenus tellement spirituels, même plus spirituels que Dieu, tout ce qui vient du païen, tu rejettes. Mais Dieu peut utiliser un incirconcis pour te révéler ta responsabilité. Dieu a utilisé même un animal. Un animal pour parler à Balaam. Dieu a utilisé un Dieu est Dieu. Soyons sérieux. Quand toi tu vas seulement en retraite, je vais aller prier. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me parle. Il va te parler comment? La Bible ne dit-elle pas que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Mais ce sont les hommes qui n'y prennent point garde. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que c'est nous qui ne prenons pas garde comment Dieu nous parle. Donc, le témoignage des autres te concernant n'est pas toujours à rejeter pour dire que non, moi, il faut que Dieu me parle. Ça, ce sont les hommes. Mais Dieu en question, tu l'as déjà vu. Mais pourquoi la parole s'est faite chair? Si Dieu... Dieu, il est Dieu, mais il fallait quand même que Dieu, en tant qu'esprit, qu'il se fasse chair. Mais alors, quand Dieu se fait chair à travers quelqu'un pour te parler, toi tu dis non, moi, il faut que Dieu me parle. Il va te parler comment? Donc, il faut avoir un certain discernement. Quand certaines personnes disent, toi tel que je te vois là, il est même arrivé même à certains parents de le dire à leurs enfants, certains amis. Toi, dès qu'on te voit là, toi vraiment, on sent que ne rejette pas ce qu'ils disent. Garde cela autant marqué par Dieu. Si c'était de Dieu, alors tu te souviendras. Mais même mes amis le disaient, même mes parents le disaient, même mes professeurs le disaient. Donc déjà, Dieu m'avait préparé. Mais nous, on rejette tout. Moi, je vais aller prier, je vais aller jeûner pour comprendre ma destinée, pour comprendre comment Dieu va faire avec moi, mais pour comprendre. Non, tu vas longtemps attendre, tu vas attendre, Jésus sera déjà revenu, il a pris l'église, et toi tu es encore dans la chambre en train de prier, Seigneur, montre-moi ta destinée. Non, parce que tu étais dans la distraction. Donc, 5 pistes. Les fardeaux, les choses que tu portes, les choses qui t'interpellent, les choses qui te mettent mal à l'aise, les choses qui réveillent ta conscience, qui te poussent à la réflexion, qui interpellent ton esprit, les dons que tu as reçus, les talents que tu as reçus, les rencontres que tu fais, les personnes qui viennent souvent vers toi, et enfin le témoignage des autres, ce que les autres disent à ton sujet, parce que tu n'es pas censé tout savoir. Il y a peut-être des choses qui s'expriment en toi que toi tu ne vois pas et que tu ne réalises pas, mais ce sont les gens qui t'entourent qui apprécient mieux ce que tu incarnes, et ils disent non, cette personne est une bénédiction pour nous. Mais toi, de façon innocente, tu ne sais pas. Mais eux, ils disent que non. Il est une bénédiction. Il nous bénit. Alléluia. Donc, c'est important dans la découverte. Maintenant, après, parce que là, on va après faire une petite pause. Ce que nous allons voir après, là. Maintenant que tu as découvert, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant que tu as découvert, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, j'ai découvert que j'ai telle grâce. Oui, j'ai découvert que apparemment moi, ces personnes-là, donc je dois les aider. Oui, j'ai découvert que à travers ma libéralité, tu as découvert maintenant dans le processus de Dieu. Quand ces hommes ont découvert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et lorsque nous allons comprendre ça, vous allez plus vous dévaluer, vous dévaloriser. Cherchons encore à aller prier, Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-moi. Dieu dit, mais j'ai déjà investi dans ta vie, toute ta destinée tracée en toi. Dans ce que tu incarnes, il y a déjà ton ordre de mission. Un peu de discernement suffit. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie que tu ignorais? Pourtant tu vivais ces choses mais tu ne savais pas que Dieu commençait le travail déjà. Qu'est-ce que tu vis intérieurement? Qu'est-ce que tu as réalisé? Dieu veut des hommes et des femmes qui portent du fruit pour lui dans l'environnement que lui-même il s'est choisi. Il utilisera des hommes. Il utilisera des circonstances. Il utilisera des opportunités. Il va le faire. Parce que dans le rêve de Dieu, c'est que tu sois la personne qu'il a toujours voulu que tu sois. C'est pourquoi il va créer plein de choses dans ta vie. Mais tu n'as pas su discerner que tous les événements, que toutes les opportunités, que toutes les rencontres que tu as faites, que tous les témoignages que tu as reçus étaient des instruments, étaient des moyens que Dieu utilisait. Soit pour te recadrer, soit pour te repositionner, soit pour t'encourager à persévérer dans ce que tu as commencé à faire. Dieu attend du fruit. Dieu attend du fruit. Dieu attend pas le fruit que tu vas te fabriquer, mais le fruit qu'il a destiné dans la semence qu'il a investi en toi. Alléluia. Dieu veut voir la manifestation de ce qu'il a mis en toi. Dieu veut voir l'expression de ce qu'il a placé en toi. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui sont utiles pour lui sur la terre. Dieu veut aimer à travers toi. Dieu veut encourager à travers toi. Dieu veut aider à travers toi. Dieu veut soutenir à travers toi. Dieu veut bénir à travers toi. Dieu veut guérir à travers toi. Dieu veut apporter des réponses à l'humanité à travers les hommes et les femmes dans lesquels il a investi de lui-même. Dans l'environnement où tu es, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta famille, il y a des besoins. Il y a des besoins. Et Dieu sait que en toi tu as la réponse à beaucoup de besoins dans ta vie, dans ta famille, tes propres amis. Dieu sait que tu es la clé pour les aider. Mais c'est toi qui n'as pas compris. Oh Seigneur, tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. Que je veux être éternellement. Comprends que je suis serviteur. C'est-à-dire instrument de Dieu. Moyen, canal que Dieu veut utiliser pour bénir, pour se révéler. Parce que Dieu est esprit, mais il se révèle à travers les fils à qui il a donné son esprit. Dieu est esprit. Il veut faire du bien à travers les fils en qui il investit de lui-même. Dieu veut voir le fruit. Parce que tu es capable de porter le fruit. Tu es capable, je suis en train de te dire. Tu es capable. Tu es capable. Tu n'es pas inutile. Tu n'as pas. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais tu as de la valeur pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Tu es utile pour Dieu. Le but de ce séminaire, c'est que tu relèves également la tête. Et tu changes la façon de te voir. Tu changes la façon de t'apprécier. Tu changes la façon de te considérer. Parce que Dieu dit que j'ai investi en toi des grâces, des potentiels, des talents, des compétences. Afin que tu marques ton époque. Afin que tu marques ta génération. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi. Je veux que ma joie le car
c'est en toi que je veux éternellement.
Tu fais de moi ton serviteur.
Je veux
que ma joie le car c'est en toi. Éternellement, oui, tu fais de moi
ton
serviteur. Je veux
que ma joie de
lui, car c'est en toi.
Je veux
éternellement, oui, tu fais de moi.
C'est en toi seul que j'ai mon plaisir.
Tu fais de moi.
Tu fais de moi ton
serviteur. Je veux
que ma joie,
car c'est en toi.
C'est en toi.
Tu es ma source. Instrument, je suis ton canal. Rien qu'en toi seul je peux m'épanouir. Rien qu'en toi seul je peux avoir un sens à ma vie. Tu fais de moi ton serviteur.
Je veux que ma joie demeure,
car c'est en toi.
C'est en toi que je veux éternellement,
car c'est en toi,
que
je veux être
éternellement.
Tu vas prier ton Dieu, tu dis: Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je comprenne véritablement la raison de mon existence, afin que je comprenne ma valeur, mon importance, mon utilité. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement.
Donne-moi le discernement.
Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia.